Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, coup de chaud sur les Esquimaux après la canicule en France. L'Alaska connaît une hausse des températures historiques, plus de 30 degrés, en partie dû au réchauffement climatique. Nous serons aux États-Unis en début de journal. Un bac plein d'incertitudes, les premiers résultats tomberont à 8 heures, mais des résultats provisoires pour certains qui avaient tout misé sur l'examen final. Reportage à suivre. Dans ce journal également, les municipalités de 2020 donne des maux de tête à la majorité. Le Premier ministre lui-même s'interroge sur la stratégie vis-à-vis des maires de droite. La préparation du procès géant des attentats du 13 novembre, on en sait un peu plus. Et pour finir, le premier choc à Avignon avec Jacques Weber dans la cour d'honneur du Palais des Papes.
Invité d'Ali Badou dans 20 minutes à 8h-10, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, j'ai nommé Frédéric Vidal.
France Inter.
On commence par deux mots, Sébastien, qui normalement ne vont pas ensemble, Alaska et canicule.
Oui, l'État américain, célèbre pour son climat polaire et les ours qui vont avec, connaît en effet une vague de chaleur sans précédent et elle va durer plusieurs jours. Les températures à Anchorage, la plus grande ville de l'État, devraient avoisiner ce week-end les 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius, du jamais vu en Alaska, coincé entre le Canada, la Russie et le cercle polaire. Les précisions de notre correspondant. Pendant aux États-Unis, Grégory Phillips.
La municipalité d'Anchorage a décidé d'annuler les feux d'artifice prévus pour le 4 juillet afin d'éviter les feux de forêt. Et on s'attend donc à des températures records tout le week-end, alors que l'Alaska vient de connaître son mois de juin le plus chaud de l'histoire. La population n'a jamais vu cela. Ailleurs aux États-Unis, on a très souvent recours à la climatisation, mais pas là-bas. Personne n'est équipé. En plus, raconte un habitant cité par le New York Times, on a en ce moment la lumière du jour pendant 19 heures durant lesquelles le soleil nous tape dessus. Plus inquiétant, les eaux de la mer de Bering se réchauffent année après année et la glace fond beaucoup plus tôt dans la saison. Un climatologue de Fairbanks dit que cette canicule est liée à de nombreux facteurs, mais aussi en partie au changement climatique. La température la plus haute jamais enregistrée en Alaska était de 30 degrés Celsius à l'été 1969. Ce record va être battu et les prévisions météo pour les prochains jours à Anchorage ressemblent à celles de Miami. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et aux États-Unis encore, c'est le séisme le plus puissant ressenti depuis 20 ans en Californie. 6,4 sur l'échelle de Richter, une secousse ressentie par 15 millions de personnes jusqu'à Los Angeles pendant une dizaine de secondes. Au final, pas de dégâts majeurs, mais une bonne panique chez les habitants qui redoutent tous le Big One, un tremblement de terre majeur. On y revient dans le journal de 8 heures.
Il est 7h34. Rarement des résultats du bac, Sébastien, auront été aussi stressants.
On se souvient longtemps de ce millésime 2019. Fuite des sujets, fuite des résultats et des milliers de candidats angoissés qui se demandent ce matin si leur résultat sera provisoire ou bien définitif. Suite à la grève de centaines d'enseignants contre la réforme du lycée, 30 000 copies n'ont pas été rendues selon le ministère de l'Éducation nationale et dans ces cas-là, ce sont les notes du contrôle continu qui seront retenues. Une solution qui n'arrange pas du tout les affaires des lycéens qui s'étaient un peu endormis en fin d'année et qui misaient tous sur le bachotage de dernière minute. Le reportage de Sébastien Sabiron.
En terminale littéraire à Saint-Cloud, près de Paris, Lola le concède, elle n'est pas très scolaire, presque un euphémisme au regard de ses notes en contrôle continu.
Philosophie, j'avais 7, en histoire 4, en anglais, catastrophe, je devais avoir 3. Troisième trimestre, j'ai arrêté d'aller en cours parce que je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur le bac. J'ai révisé à fond, pour moi ça s'est pas trop mal passé, on verra les résultats. Donc mes notes du bac, je pense qu'elles n'auront rien à voir avec mes notes de l'année. Quoi.
Lola croise les doigts pour que ses copies ne soient pas retenues par les correcteurs grévistes, tout comme Juliette. Elle aussi avait tout misé sur l'épreuve finale, certaine d'avoir son bac ES. Elle craint désormais de se retrouver au rattrapage.
S'ils me prennent ma note de contrôle continu en SES, qui sera d'environ de 8, ça veut dire que je n'aurai pas le bac. Alors que j'ai très bien réussi l'épreuve de bac en SES. J'arrête pas d'y penser, ça me stresse et toutes mes amies, pareil. Et on n'a pas révisé pour les rattrapages, on n'a pas prévu ça. Ça angoisse tout le monde et c'est un vrai foutoir.
Et à ceux qui verront résultats provisoires aujourd'hui en face de leur nom sur les panneaux d'affichage, Jean-Michel Blanquer promet qu'au final, la meilleure note sera conservée entre contrôle continu et copie d'examen. La moindre des choses, répondent les lycéennes, maigre consolation au regard du stress ressenti ces derniers jours.
Sébastien Sabiron, sur le timing des résultats provisoires ou définitifs, en métropole, les académies d'Aix-Marseille de Poitiers ouvrent le bal dans moins d'une demi-heure, donc dès 8h, suivi de Lyon, Orléans Lorient et Reims à 8h30. Dans la plupart des autres académies, les lycéens seront fixés à 10h. Lui, le bac, il l'a brillamment décroché, mention très bien. Cédric Villani a fait hier une démonstration de force à moins d'une semaine de la décision d'En Marche pour l'investiture de son candidat dans la capitale, acclamé hier soir par 500 personnes au théâtre du Gymnase. Les municipales de 2020, dont la préparation fait de plus en plus de vagues au sein de la majorité. Après le Modem qui critique les choix stratégiques de La République En Marche, c'est au tour d'Édouard Philippe de mettre en garde le parti sur la question des investitures. Le Premier ministre regrette que plusieurs élus de la droite, qui soutiennent pourtant le gouvernement, aient au final des adversaires LREM face à eux, Cyril Graziani.
C'est un peu le bordel, se lamente un ministre venu des rangs de la droite qui ne comprend pas la tournure que prennent ses investitures. Une de ses collègues porte le même jugement. C'est curieux, regardez Vannes, le maire a quitté LR, il a soutenu Renaissance aux européennes et là il se retrouve avec quelqu'un en face. Même des élus réputés très proches du président s'interrogent, le courroux du Premier ministre peut se comprendre dans certains cas. Surtout qu'Édouard Philippe a été conforté par le résultat des européennes et un appui majeur des électeurs de droite, mais les maires de droite, eux, n'ont pas joué le jeu, s'insurge un ténor de la majorité qui donne raison au parti. Ces maires ont soutenu Bellamy. S'ils doivent basculer, qu'ils le fassent maintenant, il y a toujours un moment où il faut sortir de l'ambiguïté objective, clame un ami d'Emmanuel Macron. Et ce message ne concerne pas que les maires désireux d'avoir l'investiture en marche. Le problème, poursuit la même source, c'est également Édouard Philippe qui n'a jamais adhéré au parti. Il va également devoir faire un choix.
Cyril Graziani a noté dans cette cacophonie autour des municipales cette sortie de l'ancien maire LR du Havre, Antoine Ruffnac, mentor en politique d'Édouard Philippe. Antoine Ruffnac qui, dans le Figaro, verrait bien le Premier ministre candidat à la mairie de Paris en 2020. Après des semaines de flou, on a enfin une date sur la présentation de la réforme des retraites, un sujet explosif qui sera donc présenté en plein cœur de l'été le 18 juillet prochain aux organisations syndicales. C'est un coup de massue pour les salariés de Canal+. Le groupe confronté à une érosion de ses abonnés annoncera la semaine prochaine un vaste plan de départ. Au moins 500 postes seraient supprimés, soit près de 20% de ses effectifs en France.
Il est 7h38, ce sera le procès de la décennie, le procès des attentats du 13 novembre. On en sait un peu plus, Sébastien, sur l'organisation.
Oui, à commencer par le lieu où se tiendra l'audience, un choix déterminant car ce procès inédit devrait rassembler près de 2000 personnes, Charlotte Piret.
C'est le premier défi de taille, ou accueillir potentiellement plus de 1700 parties civiles, 350 avocats, la presse nationale, internationale, le public, qui ne manquera certainement pas de venir en nombre. Le comité de pilotage qui y travaille depuis plus d'un an a opté pour l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité à Paris. Pour des raisons symboliques, difficile de remplacer la solennité d'un palais de justice, pour des raisons de sécurité surtout, eu égard au profil des accusés attendus dans le box, dont celui qui est aujourd'hui le détenu le plus surveillé de France, Salah Abdeslam. Pour autant, aucune salle du vieux palais n'est adaptée à recevoir autant de monde. Il faudra donc construire une nouvelle structure dans la salle des pas perdus, une salle d'audience dédiée, capable d'accueillir jusqu'à 600 personnes, complétée par d'autres salles équipées de vidéotransmission. Le tout pendant 6 mois probablement. Le temps de décortiquer ce dossier qui compte plus de 40 000 cotes, d'entendre les blessés, les traumatisés psychologiques et bien sûr les proches de ceux qui ont été tués ce soir-là. Car tous, magistrats comme avocats, en ont déjà profondément conscience. Ce qui se jouera durant ces mois d'audience sera bien plus qu'un procès. Ce sera aussi un morceau d'histoire collective.
Le procès des attentats du 13 novembre qui devrait se tenir en 2021. Un mot de justice encore avec les réquisitions attendues cet après-midi au procès France Télécom pour harcèlement moral.
Question Sébastien, le réchauffement climatique perturbe-t-il la migration des cigognes?
Eh bien pour le savoir, 2 bébés cigognes ont été bagués hier après-midi dans l'est de la France par la Ligue de protection des oiseaux. Une opération délicate et aérienne à laquelle a assisté Cécile Soulet de France Bleu Lorraine.
Pour baguer les bébés cigognes, une nacelle a été hissée jusqu'à leur nid au sommet d'un poteau électrique hors tension. Dominique Klein, spécialiste des cigognes en Moselle, dépose ensuite délicatement les oiseaux sur une table pour fixer une bague à leurs longues pattes.
Alors je vais lui mettre cette bague verte sur la patte droite. Ça fait pas mal. Regardez, la deuxième bague, c'est pareil. Hein.
Une classe de village est venue assister au bagage des cigognos. Les enfants sont conscients de la chance qu'ils ont de les voir de tout près.
J'ai jamais vu des cigognons de près, donc c'était bien. Les voir de près, ça fait bizarre, puis en même temps, ils sont très beaux quand ils sont bébés.
C'est d'autant plus un événement que c'est la première fois que la commune accueille un couple de cigognes, explique la maire Christiane Kunz.
Les gens sont très fiers. Il y a même des volontaires qui envisagent de faire un poteau et de préparer un prochain nid si jamais ils reviennent. Voilà.
Des cigognes qui nichent ici pour la première fois et qui modifient aussi leur migration avec le changement climatique, explique Dominique Klein.
L'intérêt de baguer les cigognes, c'est pour suivre l'évolution des oiseaux. Avec le réchauffement climatique, qui est une vérité, tout est en train de changer, les habitudes des oiseaux changent et grâce au bagage, on va pouvoir savoir ce qui se passe vraiment, pourquoi elles ne vont plus en Afrique, pourquoi elles restent en Espagne.
Depuis le début de l'année, l'ornithologue a bagué plus de 300 cigognes en Lorraine et en Alsace. Elles reprendront leur migration dans un mois.
Cécile Soulet de France Bleu Lorraine.
Et on termine avec le spectacle d'ouverture hier soir du Festival d'Avignon avec un nouveau venu dans la cour du Palais des Papes.
C'est l'acteur Jacques Weber qui a ouvert cette 73e édition avec une pièce fleuve de 4 heures, architecture de Pascal Rambert et l'histoire d'une famille d'intellectuels traversant une Europe déchirée par les nationalismes. Jacques Weber faisait à Avignon ses grands débuts. Stéphane Capron l'a rencontré.
Jacques Weber a été dirigé par les plus grands metteurs en scène, mais jamais il n'avait eu l'occasion de jouer à Avignon. C'est chose faite grâce à Pascal Rambert qui lui a écrit sur mesure le rôle de cet architecte. Jacques Weber a la lourde tâche d'ouvrir le spectacle avec un long monologue vertigineux de 15 minutes.
C'est un cadeau de démarrer une création très importante d'un texte magnifique dans un lieu absolument où il y a des fantômes et où il y a des dieux qui se baladent. Il y a une spirale dans cette écriture. C'est complètement baroque. C'est écrit comme ça. C'est-à-dire au moment où on croit que ça va s'arrêter, hop, ça rebondit. Donc il faut aller explorer jusqu'au bout. Il faut presser le texte dans la sauvagerie qui est sans mots, sans langage. Mais une fois qu'on a fait ce travail d'acteur, on est récompensé parce qu'on a affaire à un poète dramaturge.
Jacques Weber est entouré d'une distribution éblouissante. Le texte de Pascal Rambert est remarquable, d'une force inouïe. Cette famille d'intellectuels traverse le chaos de la Première Guerre mondiale, puis est confronté à la montée du nazisme. La parole portée sur le plateau est performative, quelquefois éprouvante pour le spectateur, mais il y a très longtemps que le Festival d'Avignon n'avait pas proposé un spectacle d'une telle densité pour son ouverture.
Architecture de Pascal Rambert avec Jacques Weber, c'est à Avignon jusqu'au samedi 13.
Merci Sébastien Legénie.